Salut Raph.
Salut.
16h48. OK, aujourd'hui, nouvelle qui a fait sursauter. La compagnie 3M, c'est une des compagnies qui fabrique le fameux masque N95 dont on manque un peu partout dans le monde. Et il a demandé à 3M de cesser d'envoyer des masques N95 au Canada.
Ben c'est ça. Écoute, ça c'est, je te dirais, le punch de l'histoire. Je te donne un petit peu le contexte. Et avant d'aller plus loin, gardons ceci en tête. Tu sais, ce qui se passe aux États-Unis, souvent pour bien des gens, ça peut avoir l'air un peu loin de nous. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a des fois où même ça peut avoir l'air loin de nous, dans la réalité, ça peut en fait avoir un sacré impact sur nous. Et là, c'est un très bel exemple de ça. Parce que il y a quelques jours à l'émission, tu te rappelleras que je te parlais du fait que Donald Trump avait invoqué ce qu'on appelle le Defense Production Act, qui, encore une fois, pour le commun des mortels, de ce côté-ci de la frontière, peut avoir l'air très, très loin de nos préoccupations. Or, voici en quoi c'est en train d'avoir un impact potentiel très réel ici. C'est que cette loi-là, qui, on le rappelle, date du milieu du 20e siècle aux États-Unis, fait en sorte que, et on la simplifie là, mais que le président des États-Unis peut ordonner à des entreprises privées d'aider le gouvernement fédéral américain dans une situation de crise. Donc, ça avait été passé à l'origine pendant la guerre de Corée pour aider l'effort américain, évidemment, par rapport à la guerre. Mais là, c'est invoqué maintenant pour tout ce qui est, évidemment, de la crise du coronavirus. Et lorsqu'on a annoncé ça, lorsque le président a annoncé ça, c'était vu largement comme une très bonne nouvelle parce qu'évidemment, on allait, par exemple, pousser des compagnies comme Ford, comme GE, General Electric, à produire de l'équipement médical comme des respirateurs. Or, le punch, le revirement, c'est que là, Donald Trump, il est allé pousser ça un petit peu plus loin en exigeant ou en essayant d'exiger qu'une autre compagnie, 3M, celle que tu as nommée, arrête d'exporter des masques sanitaires, les fameux masques N95, à une liste de pays étrangers, dont font partie des pays d'Amérique latine, mais dont fait également partie le Canada. Donc, Donald Trump a envoyé un tweet à cet effet-là hier soir. Et le président de la compagnie 3M, qui est, on le rappelle, évidemment une compagnie américaine, a refusé catégoriquement de se plier à l'ordre du président, a dit qu'il y avait des considérations humanitaires dans tout ça. Mm-hmm. Il ne pouvait tout simplement pas dire non tout d'un coup à cause des conséquences qui pourraient être désastreuses pour les pays qui allaient recevoir ces exportations-là. Et il a également ajouté ceci qui est intéressant. Ce qu'il a dit, c'est que si les États-Unis vont de l'avant avec un geste de la sorte, les effets pourraient être négatifs, en fait, éventuellement, pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que eux aussi, écoute, on parle assez de mondialisation à l'heure actuelle, mais ce qu'on voit, c'est que eux aussi, tout le monde, présentement, dépend d'au moins une autre partie du monde pour s'approvisionner, notamment en équipement médical. Et donc, si les États-Unis font ce coup-là à certains pays, bien, c'est bien possible que ces pays-là répliquent et après ça, refusent de leur envoyer de l'équipement médical à leur tour. Fait que, c'est, disons, se mettre le bras dans l'engrenage, un engrenage dont on ne connaît pas nécessairement la fin, assurément. Là.
Mais on sent que le gouvernement fédéral du Canada est très, très concerné, là, j'utilise un anglicisme, par cette situation-là. Justin Trudeau, d'ailleurs, a mis en garde les États-Unis aujourd'hui là, face à une politique protectionniste à outrance.
Absolument. Justin Trudeau l'a fait. Sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, aussi l'a fait. Mais dans les deux cas, vous l'avez probablement remarqué comme moi, on fait dans la prudence parce qu'évidemment, on ne veut pas d'un tel scénario, mais on ne veut pas en même temps non plus antagoniser encore plus Donald Trump. Donc, c'est vraiment là, un jeu d'équilibre qui n'est pas évident. Et ça aussi, on s'en parlait. Il y a 48 heures à l'émission, on se parlait de ça, du fait que M. Trudeau avait une tâche qui était particulièrement difficile présentement à cause de la présence de M. Trump à Washington. Mais écoute, 48 heures plus tard, on en voit un assez bon exemple. Et j'ajoute également ceci. J'imagine qu'on peut peut-être se consoler comme Canadien en se disant qu'on n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Ce qu'on a appris également au courant des dernières heures, c'est que la même compagnie 3M voulait, en fait, était en train d'exporter quelques 200 000 masques N95 à l'Allemagne, qui, on le rappelle, là, c'est assez évident, mais on le dit quand même, est également un allié très important des États-Unis comme l'île Canada. Et ces masques-là, qui étaient destinés à l'Allemagne, ont été interceptés dans un tiers pays qui est la Thaïlande, pour ne pas le nommer, et le ministre de l'Intérieur allemand est allé qualifier le geste des Américains, parce qu'évidemment, on présume que c'est des Américains qui ont intercepté les masques en question, de piratage, d'acte de piratage moderne.
Mais, c'est Raphaël, spécial. La question que ça pose pour les alliés indéfectibles des États-Unis, comme l'Allemagne, comme le Canada, c'est est-ce que ça vaut encore la peine d'être un allié indéfectible des Américains? Les Américains se la jouent « America first », c'est parfait. Mais le jeu de la sécurité mondiale, que ce soit pour des considérations militaires ou des considérations d'infection comme ce qu'on voit là, là, c'est un jeu multilatéral qui implique plusieurs États. Tu peux pas régler ça tout seul.
Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je dis que éventuellement, là, évidemment, on est en plein cœur de la crise. C'est difficile d'avoir de très gros débats là-dessus. Mais la réalité, c'est que ce genre de questions-là vont se formuler tôt ou tard parce que ça soulève des problématiques que, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui anticipait il y a à peine quelques semaines. Quand c'est rendu qu'on vole, là, parce que c'est ça, il faut le dire clairement, qu'on vole de l'équipement médical, pour pas dire dans ce contexte-ci, franchement, là, de l'équipement humanitaire à des pays alliés. C'est pas juste des pays étrangers, c'est des pays alliés. Effectivement, ça soulève des sacrées questions pour ces pays-là, dont on fait partie et dont plusieurs pays d'Europe font partie présentement. Là.
OK, Raphaël, il y a, on le sait, il y a des primaires aux États-Unis. Il devait y en avoir une au Wisconsin mardi.
Oui, et là, on évoque ça, et encore une fois, il y a peut-être bien des gens qui vont se dire « cossé, ça change ». On s'en sac-tu des élections primaires présentement aux États-Unis? Non, on s'en sac pas, et voici pourquoi ce qui est en train de se produire dans un État crucial, soit dit en passant, là, dans les élections présidentielles américaines, ça peut avoir des répercussions extrêmement sérieuses pour non seulement les mois à venir, mais les années à venir. Voici ce qui est en train de se produire. Donc, il y avait une élection primaire qui était prévue au Wisconsin mardi. On sait que Joe Biden et Bernie Sanders, les deux seuls candidats encore en lice pour l'investiture du Parti démocrate, donc sont encore dans une course qui n'est pas vraiment disputée, évidemment, à cause de la pandémie. Mais il reste qu'il y a encore des États qui sont censés voter officiellement. Donc, c'est pas tant l'issue du vote qui est important ici que la modalité ou les modalités du vote. Parce que il y avait un débat au Wisconsin à savoir est-ce qu'on va reporter le scrutin comme d'autres États l'ont fait ou est-ce qu'on va le garder à la date prévue qui était là depuis le début, c'est-à-dire mardi le 7 avril. Pour l'instant, on a gardé la date. Or, voici l'espèce de compromis auquel on est arrivé. On a dit, OK, on va garder le scrutin tel que prévu, mais on va réduire le nombre de bureaux de scrutin qui vont être ouverts. Donc, par exemple, dans la plus grosse ville de l'État, qui est Milwaukee, dans une année normale, une élection normale, on aura à peu près 200 bureaux de scrutin qui seraient ouverts. Mais là, on va en avoir 5. Donc ça pose une foule de questions extrêmement graves. Parce que, évidemment, premièrement, il y a des questions de santé. On s'attend à ce que ce soit des milliers, peut-être 10 000 personnes par bureau de scrutin qui soient là en personne pour aller voter mardi. Donc, évidemment, à l'heure actuelle, pas besoin d'aller plus loin pour que vous compreniez que c'est assez problématique potentiellement. Mais il y a aussi des questions au niveau de la légitimité. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde, c'est loin d'être tout le monde qui voudrait normalement aller voter, qui va aller voter. Et donc là, on a une primaire qui n'est pas vraiment compétitive, dont l'issue n'est pas vraiment intéressante. Mais qu'est-ce qui arrive, et c'est pour ça que tantôt je disais que ça a des implications à très long terme, qu'est-ce qui arrive si on est dans le même genre de situation dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, on arrive au mois de novembre, et c'est ce genre de scénario-là qu'on a lors de l'élection générale. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver à la légitimité de la personne qui va être élue, ou dans le cas de Donald Trump, s'il gagne, qui est réélu? Il y a des questions de santé, il y a des questions d'économie, mais des questions de démocratie qui sont liées au coronavirus présentement aux États-Unis. Là.
Très bien, Raph, t'es libéré pour la fin de semaine. Merci beaucoup.
Bon week-end.
On se reparle lundi. Philippe, tu veux t'as une petite nouvelle pour nous qui concerne justement les États-Unis?
Oui, bien, tout à fait. Je pense que tous les regards aux États-Unis sont tournés vers Jared Kushner. Jared Kushner, c'est le beau-fils de Donald Trump et voilà qu'il occupe un rôle prépondérant dans la lutte en la pandémie. Et ce rôle est devenu de plus en plus public. Et dans plusieurs médias américains, on note qu'il opère vraiment une façon de fonctionner qui est complètement distancié de celle du gouvernement. Donc, Jared Kushner en prend large de plus en plus et ça suscite de l'inquiétude parce que jusqu'à maintenant, toutes ses tentatives pour, entre guillemets, aider l'administration Trump, ça n'a pas été un grand succès, à commencer par le conflit israélo-palestinien.
Merci, Philippe. Un excellent week-end à
toi aussi, Patrick.
T'es libéré. Repose-toi bien. On te retrouve lundi. Parfait. 18h08. Dans quelques secondes, on va parler de ses cheveux qui poussent. On se retrouve. Merci d'être là après la pause.